C'est parti pour le podcast du collectif Migration Libre, le média solidaire des exilés et des sans-papiers. Nous étions confinés et le monde était en crise. Une période idéale pour lancer ce podcast parce que dans la tempête, les exilés restaient plus que jamais les oubliés. Alors pour cet épisode pilote, on vous a préparé un reportage dans un hébergement de migrants en plein confinement, un focus sur une action coordonnée par des sans-papiers à Bruxelles, la voix de détenus confinés en centre fermé, et puis évidemment des questions, des réflexions, et surtout une bonne dose d'indignation. Épisode 1er, mai 2020, exilés, sans-papiers et confinement. T'es prêt ?
Ouais, je suis prêt, y'a pas de problème.
Est-ce que tu peux expliquer un petit peu d'où tu viens et depuis quand tu es en Belgique ?
Ok, moi je viens de Niger. Ça fait plus de 6 ans que je suis ici en Belgique. Ouais, je suis confiné ici par rapport à le coronavirus quand même. Avant j'étais dans la rue quand même, tu vois. Ça fait plus de 3 ans que je suis dans la rue. Donc après j'ai demandé le numéro de Thierry pour venir dans cette maison pour me confiner.
Nous sommes dans la commune de Saint-Nicolas, en région liégeoise, dans une maison qui a été aménagée par une poignée de bénévoles au début du mois d'avril afin d'accueillir des exilés sans ressources. Il s'agit d'un hébergement temporaire, le temps d'un confinement sans véritable fin annoncée. Dans la même rue, deux autres maisons accueillent également des exilés. Derrière ce projet ambitieux, il y a d'abord une mise en commun d'énergie de la part de diverses associations de terrain. Ensuite, un généreux propriétaire qui a proposé de prêter 3 maisons inoccupées et un coup de pouce financier d'origine publique. 15 bénévoles, issus de 3 collectifs citoyens, se relaient pour coordonner la vie au quotidien dans les maisons. Le projet compte également sur de nombreux gestes solidaires, pour la préparation des repas notamment. Munis de parcours singuliers, d'aspirations individuelles, les occupants des maisons ont en commun d'avoir été renvoyés à leurs conditions de migrants sans papier, dans un plan de confinement dont on les avait exclus.
Dans cette maison, on n'est que 8 personnes. Mais 8 personnes quand même, c'est des anglophones, des francophones. Chacun connaît son droit quand même, son droit de limite. Ça, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Ça, c'est pour l'autre, voilà. Tu vois? Au niveau du quotidien, au niveau du repas, donc, c'est toujours les assistants qui nous amènent à manger quand même, tu vois. Donc il faut attendre au niveau 13h, ou non, 14h, 15h, des fois même à 16h pour attendre à manger. C'est un peu compliqué quand même, mais on fait avec elle, tu vois, on fait avec elle. Parce que voilà, on a nulle part à aller, salut aujourd'hui, donc il y a beaucoup de gens qui sont dehors quand même, beaucoup, tu vois. Il y a combien de maisons, il y a une là-bas, il y a deux là-bas, en plus ici, donc on lui remercie bien quand même.
Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui sont prises dans la maison à cause du coronavirus ?
Oui. Il y a des mesures parce qu'il faut porter le masque. Régulièrement, il faut laver tes mains avec le produit qu'on nous avait donné. On essaie quand même. On essaie.
Tu vois ? Alors, this one is for clean and wash the kitchen. Ok ?
Yeah.
It's necessary to do it all day.
Alors, une consigne importante, c'était qu'on avait expliqué que ce drap doit servir à vous laver les mains.
Les mains.
Or wash hands.
Et qu'il doit être changé tous les jours.
And need to be changed all day.
Si vous vous lavez les mains, si vous
passez à la chambre.
Ah ouais.
Vas-y.
Normally, you must wash your hands régulièrement.
Régulièrement.
Cette jeune femme, dont une maman avec un enfant de 2 ans, occupe les 2 autres maisons.
Nous sommes 3 ici dans la maison pour le moment. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle dame qui arrive. On a un planning pour faire la cuisine, le nettoyage, pour tout. Il y a des bénévoles qui viennent pour nous aider, ils lavent nos vêtements et ils apportent la nourriture. Si on a besoin de quoi que ce soit, ils nous l'apportent. Cet endroit, c'est bien pour nous. Parce qu'on a besoin de choses pour aider notre famille, mais d'abord, on doit se préoccuper de nous-mêmes. C'est bien pour nous de rester ici. On a quitté l'Érythrée, car c'est très difficile de vivre là-bas. On doit aider notre famille. Nos parents sont en train de mourir en Érythrée. Là-bas, on habitait chez notre grand-mère. On a 3 sœurs. Aujourd'hui, on veut aider notre famille, parce que c'est nous les plus âgés.
And then we need to
Pour le moment, on est ici, assis, on ne fait rien, mais avant, on avait un plan, rejoindre l'Angleterre.
We are coming here. We need to go to pass in England. After that, they have a Warren Red Cross.
Mm-hmm. Il y avait un relais pour migrants à Warren. Ils nous accueillaient pendant la journée là-bas. Ils nous donnaient de la nourriture, des vêtements, des médicaments. Et pendant la nuit, on essayait d'aller en Angleterre.
We are trying to going by UK.
Okay, trying to go to the UK.
Yeah.
And then the virus.
Et puis il y a eu le virus. D'abord, on a habité dans une famille jusqu'il y a à peu près une semaine. Ils nous aidaient. Et puis donc, il y a eu le virus et ils ont dû fermer le relais pour migrants parce que c'était difficile. On était trop nombreux. Alors, on est allé dans cette famille. On est resté là un mois à peu près ou quelque chose comme ça.
No family can. We are staying 1 month in the family. After that, they.
Et puis, ils nous ont dit qu'ils allaient nous amener dans un endroit où il y avait des gens comme eux, qui aidaient des gens comme nous. Alors on est venu ici. On est heureuse d'être ici maintenant parce que avant c'était difficile.
Donc ici, le hall d'entrée, rien de spécial à part les 15 paires de chaussures. Les filles, un petit salon aménagé avec deux petits matelas les uns sur les autres pour faire ambiance sympathique. Ici, l'évier où il faut toujours se laver les mains avant de rentrer vu que c'est le coronavirus. Le petit essuie qu'il faut changer chaque jour, je ne sais pas si elles le font. Alors, elles ont une petite cour extérieure et elles ont récupéré des transats qui étaient abandonnés comme ça dans la rue. Pour se poser. Ici, c'est une chambre pour une personne. Donc, il y a une personne qui est en bas. Et on a installé le Wi-Fi. Parce que c'est important pour qu'elles puissent parler avec leur famille et tout ça, qui sont toujours au pays. Donc ici, il y a une des chambres, où dort Liliane. Elle a sa petite pièce privée. Ici, c'est une grande pièce, le lit que j'ai apporté, mais on l'a pas encore monté. Parce que je sais pas où sont les vis. Et la deuxième chambre, ici, des filles. Voilà. Et du coup, il n'y a pas de douche dans cette maison-ci. Donc, elles doivent aller deux maisons plus loin. Et là, elles ont une douche. Parce que dans cette maison là-bas, il y a deux douches. Donc, une réservée pour elles et une réservée pour les femmes de la maison. Voilà. Et sinon, bah, elles ont tout ce dont elles ont besoin, je crois.
Je viens du Burkina Faso. Je suis ici il y a plus de 3 ans. Je suis arrivée ici le 15 avril. D'abord, j'étais dans un centre d'asile. Ensuite, quand la procédure n'a pas marché, je devais quitter le centre. Et comme je travaillais, je suis partie me prendre un studio. Et j'y ai vécu pendant 5 ou 6 mois. Voilà. Jusqu'à ce qu'on me dise que je ne peux plus travailler. Alors, j'ai dû libérer le studio. Et c'était pas simple. J'étais allée au monde des possibles. Et j'en avais parlé là-bas. Et je disais que je n'avais plus où aller. Et on m'avait dit que voilà, ils allaient voir, voilà. Et c'est grâce à un agent du monde des possibles que j'ai eu ici. C'est par son intermédiaire parce qu'il a. Bon, il a dû demander. Et un jour, Madame France m'a appelé, le mardi précisément, le 14, je pense. Et puis elle m'a dit que voilà, on a eu une place pour toi. Et j'ai dit, ok, je peux venir quand? Elle m'a dit, moi, comme je. Voilà, j'ai dit, mais moi, je viens demain. Effectivement, le lendemain, c'était un mercredi, le mercredi 15 avril. Je suis venue vers 14h30 vers là. On m'a montré la place, j'ai trouvé ma chambre et vraiment je suis Je suis tranquille. Oui.
Et du coup, what is in there? What's ingredients?
Anise. It tasted.
Okay.
Yeah. Ça est là.
Ah oui.
Non.
Mais elle mange pas.
D'accord, d'accord.
Mais Alex, qui va goûter. Le truc de Et ça, ça s'appelle comment?
Babenda.
Babenda?
Oui.
Ok.
De corona.
Je vais jamais retenir. Et ça, c'est de la pâte à base de farine de maïs.
On appelle ça to, du to.
Du to.
You like it?
Yeah. Even I don't eat very well. It stays.
Moi, je suis arrivée en 2012. Je suis arrivée en Belgique en 2012. Et j'ai demandé l'asile. Je suis partie demander l'asile. Mon asile n'a pas duré, ça fait un mois seulement. Ils ont refusé. Et j'ai fait encore le NFT en 2014. J'ai fait le NFT. Je n'ai pas fait le recours parce que je n'avais pas l'avocat. J'avais un avocat flamand. Donc moi, je n'entends pas flamand. Lui, il n'entend pas aussi français. Donc on n'a pas bien entendu. Donc j'ai laissé tomber l'asile. Et comme je suis diabétique chronique, pardon. Je suis partie faire le NFT. Le NFT, ils ont refusé premièrement que je ne suis pas de type 2 ou c'est type 1. Bon. Bon, j'ai trouvé un avocat, il a donné encore. Il a fait un recours pour moi. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas répondu. J'ai envoyé tous les profs, j'étais hospitalisée, j'ai fait tout, j'ai pris des piqûres, mais même là, on n'a rien dit jusqu'à aujourd'hui. Il y a les gens qui nous aident à manger. Alors, on était là-bas en bas de la voie des sans-papiers. On nous a donné un petit hangar. Ça fait 4 ans que je suis là-bas. C'est à cause du confinement qu'on est ici maintenant.
Toi, tu vivais alors à la voie des sans-papiers, c'est ça?
Oui, on était à la voie des sans-papiers.
Et pourquoi est-ce que c'était mieux pour toi de venir ici, dans la maison?
C'est parce que, pour venir ici, c'est parce que le jour qu'on a dénoncé que les gens, là où tu es, tu restes là-bas, j'étais chez une copine et je viens à la quai des voies des sans-papiers, ils ont fermé, donc... On me dit, j'étais avec une seule habit. On me dit, non, tu ne peux pas entrer parce que tu as fait 2 jours dehors. J'ai dit, mais je ne sais pas, vous devez appeler les gens pour qu'on sache que c'est comme ça. Là, on devait courir pour venir. Ils ont dit, non, ils ne ouvrent pas la porte. Et du coup, je suis retournée. C'est là où France, il a entendu tout ça, dit non. Ils ont trouvé un endroit comme ça pour nous. Et ils m'ont appelé que non. Au lieu que tu dors chez les gens, mieux que tu rentres ici, tu restes avec les gens. C'est là où je suis venue ici et je trouve vraiment que c'est vraiment bon. Parce que chez ma copine, là, j'ai dormi sur son canapé, là, avec ses enfants, son mari. Je n'étais pas... Tu comprends? C'est comme je suis en train d'inconvénier les gens chez eux. Mais ici, là, vraiment, je suis vraiment bien. On a tout ici. Ici, c'est comme un paradis. Depuis que je suis arrivée en Belgique, c'est ma première fois de dormir dans une chambre toute seule.
Avant d'arriver ici, là où on était combien là? 4 femmes, 3 enfants et 2 hommes. Donc, on utilisait une seule cuisine commune. Après les meubles, le tout ménager, le cuisinier, tout, il y avait un espace seulement au milieu comme ça que nous tous, on utilisait, on se bousculait dans l'espace là. Donc, au moment du confinement là, France avait demandé si quelqu'un voulait sorti de là pour aller ailleurs parce qu'il avait trouvé ici. C'est là que moi j'ai décidé de venir ici. On est trois, chacun dort dans sa chambre. C'est ici seulement qu'on est ensemble. Lui vient prendre la liste de ce que nous, on en a besoin. Donc il part faire le course, il vient poser. Si on a encore besoin d'autres choses supplémentaires, c'est là que met les petits sous là-bas pour qu'on aille acheter. Donc là, je ne crois pas qu'on manque de quelque chose.
On le remercie bien quand même. Après le confinement, je ne sais pas ce qui va se passer pour moi quand même. Mais je demande quand même d'avoir le... comment on dit d'avoir une bonne endroit comme ici quand même, même si le confinement est fini.
Now this time it's very difficult. We don't think anything because we don't know about tomorrow because a lot of people they are dying, and then we are afraid because we are going out. Maybe the coronavirus it's very difficult to catch for us, so we are not going. If the people they are helping us for here, so we are staying here. If I don't know what's going on.
Vraiment, je ne sais pas.
Cet hébergement temporaire est un projet Liège-Ville Hospitalière. Il a pris corps grâce à l'implication de diverses associations citoyennes. Thierry, coordinateur de notre collectif Migration Libre, nous raconte la mise en œuvre du projet.
Mais la première réaction a été d'abord de se dire que les hébergements qu'on faisait donc dans le lieu associatif qui nous est prêté allaient pouvoir continuer, que ça nous semblait quand même pertinent de continuer à répondre à la demande des gars qui sont dans la rue, que c'était plus intelligent quand même de les héberger même une semaine plutôt que de les laisser dehors. Mais l'association qui nous prêtait le lieu a dit non tout de suite en disant que c'était pas, voilà, que c'était trop risqué. Et donc ça a plutôt été l'inertie pendant tout un temps en se disant ben voilà, on va attendre que ça passe. On pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc Liège-Ville Hospitalière, c'est un collectif qui regroupe des gens qui sont actifs dans plein d'associations liégeoises qui travaillent dans le secteur de domaine de migration, quoi. Et dedans, il y a un groupe logement qui justement avait commencé à se réunir de manière assez positive dans l'idée de chercher des possibilités d'hébergement, de logement pour les migrants et transmigrants, donc les migrants en transit sur le territoire, de manière plus pérenne et mieux structurée. Et donc, en tout cas, moi, je sais que je me suis dit, mais il faut que ce groupe se contacte et qu'on fasse quelque chose, quoi. Qu'on interpelle la ville sur des possibilités d'héberger et de confiner des personnes migrantes plutôt que de les laisser dehors avec le danger pour eux comme pour toutes les autres personnes qu'ils peuvent fréquenter. Et donc on a, au même moment, des porte-parole, je vais dire, de Liège et d'Hospitalière ont eu la même idée. Donc ils ont interpellé eux directement le bourgmestre. La réponse que la ville a mise en place, qui était pour nous assez surprenante et même un peu délirante, qui était de proposer d'héberger ces personnes dans des tentes alors qu'ils gelaient la nuit, sur conseil des médecins selon le bourgmestre. On était un peu effarés et on a commencé alors à revendiquer des choses spécifiques pour les migrants en essayant de faire passer l'idée que c'est pas le même type de public, c'est pas le même type de problématique, c'est pas le même type de d'attendre, le même type de relation qui peut se construire, et donc il faut des réponses spécifiques aux populations migrantes. Et là, le groupe logement de Liège-Ville Hospitalière a pris la main et on a entrepris des négociations avec divers pouvoirs publics pour essayer de trouver une solution. Voilà. Le premier truc qu'on demandait, c'était qu'il y ait des possibilités de réquisition d'hôtels pour les personnes migrantes qui sont, qui développent des symptômes suspects, on va dire. Il y avait une deuxième, c'était aussi réquisition d'hôtels, mais pour des chambres d'hôtel pour des familles monoparentales ou les femmes ou jeunes filles isolées. Parce que souvent un gros problème dans les hébergements, y compris dans les familles, c'est que c'est mixte et que c'est pas toujours évident. Et on réclamait alors les réquisitions ou la mise à disposition de lieux pour toutes les personnes migrantes qui sont à la rue actuellement et qui puissent être protégées. Et là, on a lancé des pistes très concrètes qui étaient, par exemple, l'auberge de jeunesse de Liège, qui est tout à fait, évidemment, qui conviendrait parfaitement à ce type de demande. On avait pensé aux internats des écoles, à des infrastructures sportives, soit des halls omnisports ou des infrastructures de clubs de football, par exemple, des infrastructures de mouvements de jeunesse. Enfin, il y avait plein de pistes qui nous semblaient tout à fait réalisables. Elles ont toutes été refusées, rejetées. La seule chose qu'il y a eu, c'est l'hébergement en chambre d'hôtel pour les personnes victimes de violences conjugales, donc les femmes qui étaient victimes de violences. Je crois que c'est la seule réponse qu'il y a eu de la ville jusqu'à présent. Et l'ouverture de l'installation dans l'Oulom Dispor d'une infrastructure pour accueillir des personnes qui sont symptomatiques, mais qu'elles soient sans abri ou qu'elles soient sans papier et par voie de conséquence sans abri. Voilà. Et donc, nous, on a obtenu la possibilité, par la mise à disposition de maisons gratuites par un privé, et le soutien d'un service public au niveau financier, d'héberger 15 personnes.
Et est-ce que toi, tu as reçu encore des demandes ?
Donc, depuis qu'on est à Saint-Nicolas, oui, on en a eu pas mal, soit via la plateforme, via des lieux collectifs, notamment à Warem, le lieu d'accueil qui s'est arrêté. On en a via des familles. Et puis, on en a, alors là, c'est plus surprenant quand même, de la part de pouvoirs publics eux-mêmes qui nous contactent en disant voilà, qu'ils ont des situations, notamment le PS qui nous contacte en disant on a une famille bulgare, la maman est enceinte, ils ont un fils de 9 ans, ils sont dans une voiture, il faut les héberger, est-ce que vous pouvez les prendre? Moi, la première réponse que j'ai eue à la brave assistante sociale, j'ai dit mais vous vous êtes trompé de téléphone, si vous devez téléphoner au bourgmestre, pas à moi, c'est sa responsabilité à lui de trouver une solution, pas la mienne. Donc on a quand même essayé de voir si on pouvait les héberger, ça n'a pas fonctionné parce que la proposition qu'on faisait à la famille ne leur convenait pas. Donc je ne sais pas où ils sont maintenant. Mais on a eu des demandes comme ça, le CPS de Serein, deux fois le CPS de Liège, pour un monsieur qui avait des séquelles d'un AVC, 64 ans, il est à la rue, est-ce que vous pouvez le prendre ? C'est quand même assez affolant. Déjà, sans ça, c'est le rôle des pouvoirs publics d'organiser l'accueil de ces gens, pour nous en tout cas. Et dans la situation actuelle, ça l'est d'autant plus de laisser à la rue des personnes qui en plus sont malades ou une dame enceinte. Enfin, c'est complètement fou, quoi.
Au niveau fédéral, le gouvernement aurait pu prendre des mesures qui permettent à l'ensemble de la population d'avoir l'occasion d'être protégée. Dès l'annonce du confinement, la coordination des sans-papiers de Belgique interpellait le gouvernement en annonçant qu'on ne peut lutter contre la pandémie en ignorant une partie de la population. Cette partie de la population, c'est entre 100 et 150 000 personnes, dont les conditions de vie sont extrêmement précaires. Contraintes au travail au noir, la majorité d'entre elles ont perdu leurs maigres sources de revenus du jour au lendemain, sans aucune compensation. Les autres ont continué à travailler, envoyés souvent en première ligne sans protection adaptée. Pour faire face à la crise, la région Wallonne a constitué une task force d'urgence sociale. Elle a été mise en œuvre via les provinces, en collaboration avec les communes et les acteurs de terrain, associatifs ou citoyens. Au niveau local, la gestion de la crise a pris des formes diverses. Des structures temporaires ont été ouvertes suite à de nombreuses interpellations citoyennes, comme dans plusieurs communes du Luxembourg. Mais leur gestion a été déléguée aux collectifs citoyens ou aux associations. À Warem, un hébergement temporaire géré par les bénévoles a été fermé par les autorités communales. Celles-ci ont alors chargé une plateforme citoyenne régionale de trouver une solution de logement dans une autre commune. Les bourgmestres ont également renvoyé la responsabilité au niveau fédéral. La région bruxelloise a quant à elle financé la mise à disposition d'un hôtel de 120 places pour organiser le confinement de personnes sans papier. Et là encore, la gestion a été déléguée à une plateforme citoyenne.
Absence totale de l'État fédéral. Autorité locale qui se déresponsabilise ou préfère déléguer. Face à cette apathie, des femmes, des hommes se sont organisés partout en Belgique pour mettre à l'abri des dizaines de milliers de personnes exclues du plan sanitaire.
Il y a des maisons où des gens qui ont hébergé 10, 12, 15 migrants, mais pendant un week-end ou quelques jours, ce qui est leur habitude, ça peut aller. Mais enfin, c'est déjà énorme, hein. comme accueil, c'est déjà impressionnant. Mais là, c'était parti pour plusieurs semaines. Et c'est sûr que ça a été de plus en plus tendu, à la fois nerveusement, gérer le confinement, imposer des règles, ou faire en sorte en tout cas qu'elles soient respectées, et aussi financièrement. C'est héberger 10 personnes pendant 3 jours ou héberger pendant un mois, financièrement, c'est un fameux trou. Et donc aujourd'hui, la situation, c'est qu'on se retrouve avec ce qu'on avait craint, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont à la rue ou de familles qui sont au bord de craquer, quoi. En sachant que le problème ne va pas se régler quand le confinement sera fini, parce que les familles qui ont hébergé pendant un mois et demi 7, 8, 5 personnes, une fois que le confinement va être terminé, ça va être ouf, maintenant on souffle. Donc tous ces gens vont se retrouver, ces personnes hébergées vont se retrouver à la rue.
Au sein de l'Union européenne, le Portugal s'est démarqué avec une mesure sociale en régularisant temporairement l'ensemble des demandeurs et des demandeuses d'asile. Cela leur a permis d'obtenir les mêmes droits que tout citoyen portugais, dont l'accès complet aux soins et aux aides financières exceptionnelles. En France, les demandes d'asile ont été prolongées de 3 mois, sans que cela permette pour autant aux candidats et aux candidates d'obtenir des aides financières. Aucune raison de s'emballer pour autant. Bien qu'elles soient les plus sociales apparues dans le paysage européen, ces mesures excluent toujours les sans-papiers sans demande d'asile en cours. D'autres États ont pris des décisions dans des logiques purement économiques. L'Italie a par exemple annoncé la régularisation de 200 000 personnes sans papier afin de pallier la pénurie de travailleurs saisonniers qui se profile. Étant donné la pandémie, le secteur agricole ne peut compter sur sa réserve de main-d'œuvre habituelle issue des pays de l'Est de l'Union européenne. Par cette mesure, l'Italie puise donc dans la forme moderne de l'armée de réserve du capital, à savoir la force de travail que constituent les sans-papiers. L'annonce de la régularisation de 200 000 d'entre eux n'est qu'un levier d'activation de cette main-d'œuvre exploitable à l'extrême. Pour faire face à la même pénurie de main-d'œuvre, le gouvernement belge s'est contenté de supprimer le délai de 4 mois à partir duquel les demandeurs d'asile peuvent accéder au marché du travail. La mesure a choqué vu l'absence de toute mesure sociale. Si elle doit être dénoncée, elle ne tonne pas pour autant car elle est totalement cohérente avec la logique utilitariste qui sous-tend les politiques migratoires belges depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les centres régionaux d'intégration wallons ont établi le parallèle de cette mesure avec les accords bilatéraux conclus jusque dans les années 60 pour faire venir des travailleurs italiens dans les charbonnages wallons, puis des travailleurs marocains et turcs pour relancer le secteur industriel belge. C'est ce qu'on appelle l'utilitarisme. Ça signifie que les migrations sont légitimes uniquement si l'arrivée de personnes sur le territoire rapporte de l'argent à l'État. Cette logique, en cours depuis 75 ans en Belgique, a récemment évolué. Depuis 2015, on voit que l'utilitarisme s'applique également au domaine de l'asile. Autrement dit, en Belgique, on a conditionné le droit de protection internationale à la rentabilité économique. Durant la crise de l'accueil des réfugiés de 2015, le patronat belge, comme le milieu bancaire allemand, ont déclaré qu'il y avait du profit à tirer à accueillir des personnes légitimes à être reconnues comme réfugiées. Apparemment, il ne suffit pas d'une pandémie pour que l'État belge change de fonctionnement, mais au contraire, en profite pour renforcer ses politiques honteuses. La seule mesure prise n'est pas dans l'intérêt de personne, mais dans celui de l'économie. Elle ne vise pas à assurer des droits fondamentaux, mais bien l'exploitation capitaliste. Par son silence, par son inaction, l'État renouvelle donc la violence institutionnelle qu'il inflige déjà aux personnes sans papier en temps normal. Ce qu'il dit, c'est que même dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons, ces personnes n'ont droit à rien, ni toit, ni ressources, ni papier.
En pleine tempête, certaines, certains en ont eu marre de rester des invisibles.
Alors ils et elles ont élevé la voix pour faire entendre leur situation et leurs revendications.
Nous voulons que notre voix arrive à tout le monde et dire à toutes et à tous qu'on est en train de souffrir ici, dans ce pays, où nous sommes les oubliés de cette période délicate dans la société belge. Hommes, femmes, enfants, jeunes et âgés, malades, nous mourons à petit feu.
C'était le 20 avril. Une soixantaine de personnes sans papiers ont mené une action éclair devant la Tour des Finances à Bruxelles, là où se trouve le bureau de Maggie de Blocq, ministre qui cumule les compétences de la santé, de l'asile et de la migration. Les participants à l'action portaient des gants et des masques de protection. Ils se sont disposés devant le bâtiment de manière à maintenir entre eux une distance de plus de 2 mètres, dans le silence. Puis, le porte-parole de l'événement, un jeune exilé sans papier, a prononcé un discours à l'adresse du gouvernement belge.
Vu l'état actuel, tous les secteurs sont fermés, il n'y a presque pas de travail, les sans-papiers se trouvent du jour au lendemain sans aucun revenu et sans aucun aide. Abandonnés par ce système, nous lançons aujourd'hui ce cri de l'injustice qui nous tue. C'est le coronavirus ne va pas discrètement, ne va pas directement, pas tous nous tuer. Cette politique migratoire va le faire. Nous, sans-papiers, vivons déjà chaque jour des difficultés, mais au moins, nous pouvions travailler au noir et gagner de quoi vivre avec nos familles et nos enfants. Une situation que nous dénonçons pourtant. Nous avons tant combattu contre l'exploitation des sans-papiers. Nous avons revendiqué d'être traités dignement. Nous avons revendiqué l'égalité entre toute personne résidant sur le territoire belge. Ce que nous réclamons, c'est une reconnaissance de l'État belge, de notre existence ici depuis des années. Nous voulons être régularisés sans entrer dans des détails. La régularisation des sans-papiers dans la situation actuelle est nécessaire et urgente. Voilà, il s'agit d'un premier signal d'alarme que nous lançons. Nous espérons entendre dans les jours qui viennent que l'État belge se décide à bouger dans les brefs délais pour notre cause et résolve notre problème. Car régulariser tous les sans-papiers sans attendre est juste, humain, et vise le bien-être de tous et toutes. Justice, liberté, papier pour tous.
Ce jeune exilé sans papier qu'on entend, il porte un nom et une histoire. Il s'appelle Rabia et vit en Belgique, à Bruxelles, depuis 5 ans, dans une précarité que la crise liée au Covid-19 n'a fait qu'empirer.
Pour le moment, je vis chez des potes, chez des amis, mais après, je vais devoir déménager, comme d'habitude. Mais ça, c'est une situation que maintenant, je m'y habitue. À chaque fois, changer du logement, c'est fatigant. C'est un truc qui me prend beaucoup d'énergie. Même mentalement, je veux plus. Vraiment, j'ai envie de m'installer quelque part, une fois pour toutes, même parce que j'en ai marre de chaque fois partir quelque part. C'est pour ça que je fais le combat d'avoir mes papiers et commencer une vie normale. J'arrête pas de dire ça partout. On veut juste vivre une vie normale et d'arrêter de galérer et de partir à gauche, à droite et ne pas avoir d'argent. Personnellement, je travaille des fois, mais des fois non. Et du coup, tu vis juste avec la récup. Et vraiment, c'est un peu fatigant. Le confinement a changé tout notre rythme de vie. Je pense que pour tout le monde, mais surtout pour les sans-papiers parce qu'ils n'ont pas un revenu ou un aide de l'État. On n'a pas l'argent. C'est l'argent qui manque parce qu'on a juste l'aide alimentaire. Mais par rapport aux gens qui louent ou qui ont des factures, c'est la galère parce qu'ils ne peuvent plus payer leurs factures ou leur loyer. Parce qu'ils ont perdu leur boulot. Un sans-papier, il a aucun travail avec contrat ou quoi. Il vit toujours avec le travail en noir et il vit toujours à l'abri des lumières parce qu'il a peur d'un jour il soit dévoilé et arrêté et expulsé. Mais du coup, c'est le travail en noir, l'exploitation, le salaire moins ridicule déjà, moins que tous les autres. Oui, on dénonce le travail en noir, on ne veut pas, et voilà, c'est l'exploitation et tout ça. mais au moins les gens ils se débrouillaient avec. Maintenant, même avec ce moyen qui est pour moi pourri, il n'y a plus. Et du coup, les gens ils vont commencer à galérer vraiment à fond. On est en bas du bas de l'échelle dans la société.
Nous avions rencontré Rabia pour la première fois l'été dernier lors d'une marche solidaire organisée par notre collectif. Depuis son arrivée sur le territoire belge, Rabia milite activement pour les droits des personnes sans papiers.
C'est un choix que j'ai fait de rester, tu vois, de militer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'aie un résultat, parce que je me suis promis de m'en sortir et parce que je pense que c'est un droit que chacun il doit avoir de se déplacer et s'installer là où il a envie de s'installer. Sans aucun problème, comme tous les gens que je connais qui sont d'origine européenne ou autre, qu'ils viennent dans nos pays, ils s'installent facilement sans aucun souci. Et moi, je me suis promis que peut-être cette vie qu'eux, ils refusent de me la donner, moi, je vais l'arracher, même s'ils n'ont pas envie, parce que je pense que c'est ma liberté et c'est mon choix. Et voilà, on continue ce combat jusqu'à ce qu'on a nos droits. C'est ça ma vie maintenant.
Alors, suite à votre action, est-ce que vous avez eu une réponse du gouvernement belge?
Pour le moment, pas encore. On a fait la première sortie et on espère qu'il y a une réaction du gouvernement, que minimum il parle de la situation difficile que ces gens y vivent, mais le gouvernement il veut pas, même pas citer, même pas trouver une solution. Du coup, maintenant, c'est à nous de jouer. C'est à nous de dire à la société belge que voilà, on existe et on galère. Et on est en train de préparer encore un deuxième truc. Et voilà. On connaît maintenant comment ça fonctionne, les gouvernements belges et les politiciens belges. Ils font l'oreille sourde. Ils veulent pas voir la réalité en face. Jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une pression. Là, ils vont réagir. Et du coup, moi, j'ai proposé la première sortie, c'est juste un signal d'alarme. Et après, il faut penser à d'autres actions à faire, sans violence, bien sûr, sans rien du tout. C'est juste, on veut que notre voix soit entendue, qu'on soit écouté, que notre situation soit résolue. Et c'est pour ça, il n'y avait pas seulement dans le plan une sortie, on va reculer. Non, il y avait dans le plan qu'on va faire pas mal de choses différentes pour que le gouvernement réagisse.
Rabia a lancé son blog et une page Facebook. Ça s'appelle Migrants Libres. Vous pouvez visiter la page, la liker et la partager. Sur cette page, Rabia recueille les vidéos et les images de citoyens qui suivent un appel à la régularisation pour les sans-papiers. Toutes les informations se trouvent dans le résumé du podcast. Dans cette crise, il y a ceux et celles qui sont abandonnés dehors, et puis il y a celles et ceux qui le sont dedans. Fin mars, une citoyenne a réalisé des entretiens par téléphone avec des personnes maintenues en centre fermé. On les écoute.
Tout ce qui a été conseillé par l'État est prodigué. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Que ce soit la sécurité, les assistants sociaux et la direction ne portent aucun masque. Ils n'ont pas de gants. Moi, par exemple, je prends des médicaments et quand on me donne les médicaments, je suis à 20 cm de la personne qui me les donne et qui me les donne sans gants. Il y a 3 changements d'équipe, c'est-à-dire il y a une équipe qui fait le matin jusqu'à 14h, il y a une autre équipe qui vient jusqu'à 22h et 22h, il y a l'équipe de nuit. Mais aucune de ces personnes n'est protégée. Ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de gants, quoi. Et eux, ils vont et ils viennent et qu'au réfectoire, on mange tous ensemble. On s'approche, on se frôle, c'est aberrant, quoi. C'est aberrant. Je comprends pas. C'est aberrant.
Ces témoignages s'ajoutent à celui du journaliste Imad Messoudi qui, le 9 avril, a publié sur le site de la RTBF un article dévoilant le quotidien du confinement au centre fermé de Merksplatz.
Nous avons reçu un certain nombre de vidéos alarmantes sur la situation dans le centre fermé. On y voit de la nourriture servie largement avariée, un non-respect de la distanciation sociale dans les communs, des matelas mis au sol pour respecter la distanciation sociale en raison de la présence de lits superposés, la cellule d'isolement qui est utilisée lorsqu'un détenu présente des symptômes du coronavirus.
Ce qui inquiète aussi, c'est l'interdiction des visites extérieures dans les centres, interdiction soi-disant légitimée par les mesures sanitaires. Le 25 mars, la parlementaire Sarah Schlitz s'est vue refuser le droit d'entrée au centre fermé de Votem et s'en est inquiétée sur son site web.
L'interdiction d'accès aux parlementaires, qui intervient après la suspension du droit de visite des ONG, a pour conséquence qu'à ce jour, plus aucun organe externe à l'Office des étrangers n'est à même d'exercer un contrôle sur les conditions de détention et les conditions sanitaires à l'intérieur des centres. Lors de ma précédente visite du centre fermé de Votem, le 16 mars 2020, j'avais pu constater l'état lamentable des sanitaires et l'absence de toute consigne d'hygiène affichée.
Au début du confinement, 300 personnes ont été libérées des centres. Pour les personnes restées enfermées, l'angoisse a persisté.
On mange dans une salle 20 personnes. Ils sont fait des distances, mais ça, c'est pas une distance vraiment. Parce qu'en fait, normalement, il faut qu'on 10 personnes sur une table. On est 20 personnes dans une salle. On n'a pas de distance avec les gens. Et quelle est la raison? Vingtaine, ils sont sortis et 10, on a resté ici. Je comprends pas. Si ça, la loi, ça a la loi pour tout le monde, pas pour vingtaine, on est 10e, on reste ici. Ça, c'est pas bien parce qu'en fait, ça fait mal même au cœur que tu vois les gens qui partent et tu restes ici. Ça, c'est pas bien aussi. Bah, le système social dit il faut qu'on attend, mais je sais pas, on attend quoi exactement parce que l'aéroport ici est tout fermé. Tout est fermé, on peut pas rester ici des mois ici pour attendre un vol ou pour libérer. Je veux rentrer chez mes enfants parce qu'en fait, j'ai peur. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour mes enfants et j'ai peur pour mon mari parce que mon mari, il est malade.
Nous, on n'est pas des criminels, que nous, on aimerait bien rentrer chez nous. Déjà, l'état d'urgence qu'il y a dans le pays et dans l'Europe entière, nous, on est paniqués, on n'est pas bien et on a peur d'attraper une cochonnerie venant de l'extérieur. C'est-à-dire, donc, quand je dis venant de l'extérieur, c'est venant de la sécurité, de la direction, des assistants sociaux, des éducateurs qui sont là. Donc, nous, franchement, ne nous oubliez pas parce qu'on est des êtres humains, on a des familles à l'extérieur. Et franchement, levez-vous pour qu'on puisse fermer.
Le 18 mars, 75 avocats signaient une carte blanche intitulée « Coronavirus, la détention des personnes migrantes en centre fermé est devenue illégale ». Extrait.
Sur le plan du droit, le principe fondamental veut que la détention administrative d'un étranger ne soit autorisée qu'en vue d'assurer son éloignement le plus rapidement possible. Si l'éloignement devient hypothétique, voire impossible, la détention n'est plus légale. La Belgique est, comme la France, confrontée à la fermeture des frontières de nombreux États d'origine des personnes actuellement détenues et à la réduction drastique des vols internationaux. Dans ces conditions, l'éloignement de ces personnes est parfaitement illusoire et leur détention illégale. Sur le plan sanitaire, le respect des directives de l'OMS qui recommandent des mesures pour limiter les risques d'exportation et d'importation du Covid-19 s'oppose clairement à la poursuite de la détention dans les centres fermés.
Malgré ces dénonciations et ces recommandations, le gouvernement a fait le choix délibéré de garder des personnes sans papier dans ces conditions de détention déplorables.
Pour les 300 personnes libérées des centres fermés dès le début du confinement, aucune solution de relogement n'a été proposée. Toutes celles qui ne pouvaient s'appuyer sur l'aide de proches se sont retrouvées à la rue, sans aucune autre ressource que les aides des associations. Durant 3 semaines, les candidats et les candidates à l'asile n'ont pas pu introduire leurs demandes et se sont retrouvés dans l'impossibilité d'obtenir la place en centre d'accueil qui leur est due. Ces personnes s'ajoutent aux catégories de demandeurs et de demandeuses d'asile que l'État décidait illégalement d'exclure du réseau d'accueil pour faire face à la saturation de celui-ci en janvier dernier.
L'État laisse des personnes entassées les unes sur les autres, parfois sans savon ni PQ, alors qu'on nous demande partout ailleurs de respecter des règles de distance physique, de nous laver les mains régulièrement avec du savon et de porter des masques. On ne comprend pas pourquoi il y a encore plus de 160 personnes détenues en centre fermé alors que c'est illégal. On ne comprend pas pourquoi la ministre de l'Asile et des Migrations et son administration peuvent agir en toute illégalité et ne pas en être inquiétés. En fait, on ne comprend pas pourquoi ce sont les citoyens et les citoyennes, déjà à bout de souffle, qui doivent se mobiliser pour offrir un toit, des colis alimentaires, des protections menstruelles ou des flacons de gel hydroalcoolique à ces âmes errantes, coincées sur notre territoire malgré elles, à ces enfants scolarisés dans nos écoles, à leurs parents, à ces femmes, à ces hommes, qui luttent tant bien que mal depuis des années pour vivre en Belgique, loin de ce pays qu'ils ont fui pour toujours parce qu'il était devenu impossible, ne serait-ce même que d'y survivre. Oui, ces femmes, ces hommes à qui les mesures liées au coronavirus ont arraché le peu qu'ils et elles avaient. Ces femmes, ces hommes, ce sont certains, certaines d'entre nous, membres de notre collectif. Ce sont celles et ceux qui traversent les lieux de l'hébergement que nous ne pouvons plus organiser à cause de cette crise sanitaire et sociale. On ne comprend pas comment notre gouvernement belge parvient à s'en laver les mains et avec autant de dédain. On ne comprend pas comment ce gouvernement peut par derrière justifier l'utilisation de ces mêmes hommes et de ces mêmes femmes pour aller cueillir nos fraises et nos asperges. Ceux-là même, celles-là même qu'une fois les récoltes terminées ou les bras de l'Est retrouvés, il s'empressera de traquer pour les mettre dans un avion en direction de leur tragique destinée. En fait, ça fait des années, ça fait des décennies qu'on ne comprend pas la politique migratoire de ce pays. Ou peut-être justement qu'on la comprend trop bien, cette politique cynique, cette politique du repli sur soi. Cette politique qui fait vivre un enfer à des êtres humains pour gagner quelques points dans les sondages. Cette politique qui préfère la peur et les fantasmes sécuritaires au défi de l'accueil et de la solidarité. Oui, peut-être qu'on la comprend trop bien, mais qu'on ne l'accepte pas. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Alors, mesdames, messieurs les ministres, alors, mesdames, messieurs les gouvernants, à vous qui décidez de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas, à vous qui décidez de comment utiliser notre argent, à vous qui décidez de qui a le droit de vivre ou de mourir, sachez qu'on n'accepte pas et qu'on n'acceptera jamais vos règles pourries du chacun chez soi, du chacun pour soi. Vos politiques, elles puent la mort et le renfermé. Nous sommes du côté de la vie, de l'ouverture et de la solidarité. Alors nous n'arrêterons pas. Non, nous continuerons à nous positionner contre vos règles mortifères, à dénoncer votre mépris injurieux et à déconstruire vos prétendues vérités, juste bonnes à nous désunir, juste bonnes à nous déshumaniser. Ce podcast est une initiative du collectif Liégeois Migration Libre. Merci à toute l'équipe pour la réalisation. Les sons qui vous ont réjoui les oreilles tout au long de l'épisode ont été composés par Razik Beats. Merci à lui pour ses créations originales. Et puis merci à celles et ceux qui partout font œuvre de solidarité, luttent et revendiquent envers et malgré tout. Chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve vite. Et d'ici là, prenez soin de vous et des autres.